Et pour l'heure, il est midi et demi, temps universel, 13h30 à Libreville. C'est l'heure d'Afrique Midi, toute l'actualité africaine. Avec vous, Pierre Boudias, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, vous l'avez dit, d'actualité africaine que nous commencerons au Gabon. Qui pour diriger le Gabon dans les 7 prochaines années? Élection présidentielle en cours dans le pays, 18 mois après le début de la transition. Scrutin qui se déroule pour le moment dans le calme. Nous retrouverons notre correspondant à Libreville dans un instant. La FCM-23 assure avoir repoussé une offensive de l'armée congolaise à Goma hier soir. Le groupe armé soutenu par le Rwanda contrôle la ville depuis 2 mois. Les détails dans ce journal. Au Sénégal, les intellectuels vont debout contre la nomination de Macky Sall au sein de la fondation Mo Ibrahim pour la démocratie. Opposition exprimée par une 60aine d'universitaires dans une tribune. Ils reprochent à l'ex-président une dérive autoritaire lors de son second mandat. Et puis clap de fin du 9e festival international du balafon en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça se passe à Boundiali et on attend ce soir les Ivoiriens de KBL. L'occasion pour la jeune génération de plaider pour un balafon plus ouvert et inclusif, vous l'entendrez. Ils sont donc 920 000 à être appelés aux urnes ce samedi. Les électeurs gabonais qui se choisissent depuis 7h, heure locale, un nouveau président près de 20 mois après le coup d'état de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Le président de transition fait lui-même partie des 8 candidats à ce scrutin. Le vainqueur sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. On va tout de suite prendre la direction de Libreville pour y retrouver notre envoyé spécial François Mazet. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Vous avez fait le tour de la capitale ce matin. Comment se déroule ce scrutin?
Alors, de ce que j'ai pu voir dans tous les centres de vote dans lesquels je me suis rendu, c'est que cette élection se déroule dans le calme. Les bureaux ont ouvert souvent avec un peu de retard, une vingtaine de minutes, parfois jusqu'à 1 heure, le temps de finir l'installation, ce qui a créé des files d'attente qui sont toujours bien visibles. Par exemple, j'étais à l'école Batavia dans le 4e arrondissement tout à l'heure et beaucoup de monde attendait son tour dans la cour dans une ambiance détendue qui tranche avec celle des derniers scrutins. C'est peut-être aussi pour cela que l'affluence, selon certaines personnes avec qui j'ai échangé, semble supérieure jusque-là aux dernières élections, mais aussi au référendum de novembre dernier. Alors, il y a eu quelques légers incidents relevés, notamment la difficulté pour des observateurs accrédités d'accéder au bureau de vote. Certains responsables de bureaux doivent mettre leur pratique à jour, m'a dit le chef d'une mission nationale, qui assure toutefois que ces obstacles ont été très rapidement levés.
Alors un vote globalement dans le calme, François, on l'entend, vous restez avec nous, mais avant, je vous propose d'écouter quelques témoignages d'électeurs croisés ce matin par Yves-Laurent Goma, notre correspondant à Libreville. Il a tendu son micro devant l'école publique Martine Oulabou dans le 2e arrondissement et devant celle de la cité Damas dans le 4e arrondissement de la capitale gabonaise, bien sûr. Après le long règne des bongos, c'est globalement l'espoir qui domine.
Très bien voté, avec le cœur serein, dans la joie, la sérénité. Sans peur, la gaieté. Les années antérieures, on votait avec le stress et autres, mais aujourd'hui, on peut lire sur les visages des électeurs la soif d'en découdre avec le passé.
On sort avec la joie parce que nous pensons que notre pays est en train de prendre une autre direction pour pouvoir justement impulser le développement du pays.
On veut voir les actes pour le pays, le chômage, l'habitat, l'école, les universités, c'est ce que j'aimerais voir dans le futur.
On veut quelqu'un qui amène l'espoir, l'idéal du Gabon dans le bon sens, qui peut, n'est-ce pas, corriger ce que les autres ont fait hier et que le Gabonais se sent paisible chez lui.
Alors François, vous êtes toujours à Libreville, vous êtes toujours en direct avec nous. Quelle est la suite maintenant? Les bureaux de vote doivent fermer à 18h.
Oui, c'est l'heure prévue en tout cas, hein, mais le code électoral dit que le vote peut se poursuivre jusqu'à 20h si toutes les personnes présentes n'ont pas encore pu glisser leur bulletin dans l'urne. Place ensuite au dépouillement. Les résultats doivent être affichés bureau de vote par bureau de vote et les procès-verbaux sont accessibles aux observateurs comme aux représentants des candidats. Le ministère de l'Intérieur n'a pas précisé de date pour l'annonce des chiffres globaux, mais grâce au numérique, la compilation pourrait être assez rapide.
François Mazet en direct de Libreville, merci à vous. On continue à suivre toute la journée cette élection avec vous et avec Yves-Laurent Goma. Les candidats malheureux auront 8 jours pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. On rappelle également que cette élection ne clôt pas officiellement la période de transition puisque d'autres scrutins, notamment législatifs, doivent avoir lieu dans le courant de l'année. RFI, il est 14h34 à Goma, la capitale du Nord Kivu. Des tirs nourris ont été entendus hier. Nous sommes bien sûr dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a assuré l'AFC M23 qui contrôle la ville depuis maintenant 2 mois. Le groupe soutenu par le Rwanda assure avoir repoussé une attaque de l'armée congolaise et de ses supplétifs Wazalendo. Kinshasa n'a pas réagi pour le moment. Les faits avec Vincent Dublange.
Le gouverneur du Nord Kivu, installé par l'AFC M23 qui contrôle la ville depuis 2 mois, affirme, je cite, avoir anéanti les assaillants. Il cite les FARDC, l'armée congolaise donc, mais aussi leur supplétif Wazalendo, et puis les FDLR, ce groupe rebelle à l'origine fondé par d'anciens génocidaires hutu-rwandais à la fin des années 90. Selon des sources concordantes, l'attaque de la soirée, qui s'est poursuivie dans la nuit, était bien coordonnée. Les assaillants, lourdement armés et nombreux, ils ont réussi à atteindre la route principale Katindo Ndosho avant d'être repoussés. Ils auraient, d'après un habitant de Goma, pillé plusieurs maisons sur l'avenue Balindu. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Au moins un décès et un blessé enregistré dans une structure hospitalière à Goma, d'après une source sanitaire. La circulation a repris ce samedi matin. C'est une journée dédiée au Salongo, les travaux communautaires.
Les combats de ce vendredi soir à Goma interviennent dans un contexte de recrudescence des affrontements dans plusieurs endroits des provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces combats ont eu lieu ces derniers jours dans les territoires de Massissi au Nord Kivu et dans ceux de Kalehe et de Kabare au Sud Kivu, notamment à proximité du parc national de Kahuzi-Biega. Un conflit dont les enfants sont une nouvelle fois les principales victimes. Énième cri d'alarme de l'UNICEF qui alerte sur un niveau sans précédent de violence sexuelle contre les plus jeunes en RDC. Sans surprise, c'est dans l'est du pays que la situation est la plus inquiétante. À Kinshasa, Paulina Zidi.
En janvier et en février 2025, l'UNICEF dit avoir enregistré plus de 10 000 cas de viol en RDC et 35 à 45% de ces cas concernent des enfants, parfois des tout petits, précise James Elder, le porte-parole de l'organisation. Une situation telle que le pays, et particulièrement sa partie est, n'avait jamais connue. Et le responsable onusien de mettre en garde, il s'agit peut-être de la partie émergée de l'iceberg. Nous ne parlons pas d'incidents isolés, insiste-t-il, mais d'une crise systémique. Pour l'UNICEF, il s'agit d'une arme de guerre et de tactiques délibérées de terreur. Cela détruit les familles et les communautés. Depuis la résurgence du conflit entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés, les humanitaires alertent régulièrement sur l'augmentation du niveau de violence sexuelle et demandent la fin de l'impunité pour les auteurs de ces violences. En mars, les Nations Unies déclaraient qu'en RDC, une femme était violée toutes les 4 minutes. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
L'UNICEF qui met également en garde dans ce rapport contre les conséquences de la baisse de l'aide humanitaire apportée au pays. En 2026, 500 000 d'enfants pourraient ne pas avoir accès à l'eau potable dans le pays, selon les experts. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo tient un meeting aujourd'hui à Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan. Réunion politique de son parti, le PPACI. La formation a suspendu hier sa participation à la commission électorale indépendante à 6 mois de la présidence du 25 octobre. Laurent Gbagbo reproche entre autres à la CEI de violer ses règles pour satisfaire les intérêts du pouvoir. Ce sont ses mots. L'ex-chef d'État réclame un dialogue politique sincère pour une élection, je cite, crédible, inclusive et apaisée. A noter que le PDCI, autre grande parti d'opposition, a également suspendu sa participation à la CEI. Au Sénégal, Macky Sall a-t-il sa place au conseil de la fondation Mo Ibrahim pour la démocratie? Non, selon une 60aine d'intellectuels et de professeurs d'université qui s'insurgent contre la nomination de l'ex-président cette semaine. Oumar Dia est maître de conférences en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop et l'un des 64 signataires d'une tribune qui appelle la fondation à faire machine arrière. Il s'en explique au micro de Léa Lisa Westerhoff.
La cooptation de Macky Sall comme membre de leur comité des sages, c'est très choquant parce que c'est une prime à la violation massive des droits humains, c'est une prime à la remise en cause du fonctionnement démocratique de notre pays. Pour toutes ces raisons, justement, nous nous insurgeons et nous estimons que c'est totalement incompréhensible dans la mesure où, justement, c'est le contraire qui est mis en avant par la Fondation Mo Ibrahim, à savoir le respect du fonctionnement démocratique, des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, ce qui n'a pas du tout été le cas du règne de Macky Sall. Parce que son second mandat, surtout, c'est caractérisé par une dérive dictatoriale, palpable et tout à fait objective.
Et la fondation Mo Ibrahim, contactée par RFI, n'a pas souhaité réagir. Le Bénin, bon élève du développement économique, c'est en tout cas la conclusion des experts du Fonds monétaire international en visite dans le pays jusqu'à hier. Leur communiqué final a été publié ce matin. Venus évaluer deux programmes de crédit accordés à Cotonou, ils sont repartis en promettant un décaissement de plus de 66 milliards de francs CFA d'ici à juin. À Cotonou, les détails avec Jean-Luc Aplogan.
Comme les fois précédentes, le Bénin coche toutes les cases avec cette fois des résultats largement au-dessus des objectifs et des prévisions. Le chef de la mission du FMI est très élogieux sur la gouvernance économique du gouvernement, Patrice Talon.
On a une croissance en 2024 qui a atteint 7,5%. Ça a largement surpassé nos prévisions, plus d'un point de pourcentage. Au niveau budgétaire, le Bénin a atteint la cible de la norme de déficit de l'UEMOA de 3%, avec un an d'avance. Là encore, c'est une performance assez impressionnante. On observe une hausse des recettes fiscales.
Plusieurs éléments ont fait grimper cette croissance, l'agriculture, l'agro-industrie, les chantiers de construction et le secteur tertiaire qui demeure un moteur de la croissance. Pour 2025, le Bénin devra maintenir la dynamique et s'est engagé sur l'augmentation des dépenses sur le social, sur la poursuite de la mobilisation des recettes et sur la publication en temps utile des états financiers des sociétés d'État. Pour ces bons résultats, le Bénin attend un décaissement de 115 millions de dollars pour les deux programmes. 80 millions sont destinés au financement de la politique d'action climatique. Il reste une dernière évaluation pour la fin des programmes. Elle aura lieu dans 6 mois. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Tout autre chose maintenant avec la clôture ce soir du Festival international du Balafon. Ça se passe à Boundiali en Côte d'Ivoire et on attend justement les Ivoiriens de KBL mais également les Burkinabés de Kantigi, de Orodara et Molo Bali Keïta pour le Mali. Cet instrument traditionnel inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO tente de plus en plus de s'inscrire dans la modernité. Reportage à Boundiali de Frédéric Gara.
Tiken Jafakoli appréciera cette reprise car ouvrir les frontières de cet instrument ancestral qu'est le balafon, c'est la volonté de la jeune génération. C'est ainsi que les 6 jeunes Ivoiriennes du groupe Sorayo ont pris le parti de féminiser un genre traditionnaliste et parfois un peu trop patriarcal. Perside, joueuse de kora, et Audrey, balafoniste.
C'est la particularité de notre groupe. On avait tendance à entendre que les instruments traditionnels sont joués uniquement par des hommes. Mais avec la modernisation, avec la civilisation qui évolue, on a voulu montrer au monde que les femmes peuvent désormais jouer à tous les instruments africains, surtout le balafon.
C'est très masculin à la base. Il y a des villages dans lesquels on ne permet pas aux filles de jouer.
Le Malien Pécha, fils d'un grand balafoniste, Neba Solo, a lui aussi opté pour un balafon moderne.
J'ai l'habitude de jouer avec des DJ. Comme moi-même aussi, je peux programmer où mon manager balance l'instrumental et moi je joue. Moi, mon concept, c'est ça. Donner la force à la tradition et qui va pousser encore la tradition, je pense.
Frédéric Gara, Boundiali, RFI.
Et puis un mot de sport avant de nous quitter. Eux auront vibré jusqu'au bout, les U17 ivoiriens et leurs supporters qui auront dû attendre une séance de tirs au but étouffante face au Sénégal pour se qualifier en demi-finale de la CAN. On parle bien sûr de football. Place maintenant au Maroc en demi-finale. Retour sur cette rencontre à haute intensité avec Mathias Reynal.
Notre chantier, c'est vraiment l'attaque. Les combinaisons en attaque, le jeu de finition. On a appris aux jeunes démarrer les jeux par derrière, créer les appels de balle vers l'avant. Tout ça, maintenant, ils le comprennent. Mais malheureusement, le chantier reste l'attaque. Et donc, puisque nous sommes toujours en formation, ils ont l'âge de la formation. C'est des moins de 17 ans. Donc, le travail continue. Nous allons appesantir le travail dans l'aspect offensif, essayer de scorer et de marquer des buts. Nous sommes dans un processus de formation et nous continuons dans ça. Défaite ou pas défaite, Côte d'Ivoire ou un autre pays, nous restons jeunes et nous sommes dans notre logique formatrice. Et très sincèrement, je ne suis pas déçu. Ce que j'ai aimé, c'est la production des deux côtés, des enfants de la formation, que ce soit ivoirien, que ce soit sénégalais.
La déception donc de l'entraîneur des U17 sénégalais, les Sénégalais qui étaient tenants du titre avant de se faire éliminer donc par les Ivoiriens qui joueront le Maroc en demi-finale. RFI, il est 12h44 en temps universel. Afrique Midi, nous sommes ensemble pour encore une petite quinzaine de minutes au programme. Quel impact du retour de Joseph Kabila en RDC? L'ancien président rentre au pays, mais pour y faire quoi? Élément de réponse avec notre partenaire Jeune Afrique. Dans sa chronique de la semaine, Jean-Baptiste Placa nous dira lui pourquoi certains hommages sont plus sincères que d'autres. Vous l'entendrez. Et puis c'est la philosophe et chercheuse au CNRS, Barbara Casson, qui viendra murmurer son mot du jour aux oreilles de Lucie Bouteloup. Vous l'entendrez, il sera question d'Arien. Ce samedi, il est midi 45 en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est donc un comeback au goût de revanche qui fait la une de notre partenaire Jeune Afrique cette semaine, celui de l'ancien président congolais Joseph Kabila. Il a confirmé son retour au pays mardi dernier. Après 6 ans de silence et 1 an passé en Afrique du Sud, quelles ambitions pour l'ancien chef de l'État? Quel soutien et quel positionnement face au conflit qui secoue l'Est de son pays? Élément de réponse avec le journaliste Romain Gras au micro de Catherine Potier.
Bonjour Romain Gras.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Jeune Afrique en charge de la RDC et de la région des Grands Lacs. L'ancien président a lui-même annoncé son retour et aussitôt une première question se pose. Comment va-t-il rentrer en RDC? Via son fief du Katanga ou via les zones contrôlées par le M23?
Je pense qu'il y a une confusion qui est entretenue à dessein par Joseph Kabila et ses proches quand il parle de la partie orientale de la RDC pour son retour. Ça a produit l'effet escompté, hein, parce que sans préciser le point d'entrée, il laisse l'opinion se positionner. Est-ce qu'il va rentrer par son fief politique ou par les zones sous contrôle des rebelles? Je pense que chaque option a sa contrainte. Rentrer par le Katanga, ça semble difficile aujourd'hui vu ses relations avec le pouvoir actuel. Rentrer par les territoires occupés par le M23, c'est une possibilité évidente. Certains de ses proches en parlent comme d'une option très sérieuse, et du côté de la rébellion, il pourrait aussi chercher à saisir cette opportunité. Mais ça a inévitablement un coût en termes d'image pour Joseph Kabila, que le pouvoir soupçonne d'être l'un des parrains de l'Alliance Fleuve Congo. Donc reste à savoir, j'allais dire, dans quelle mesure il souhaite s'accommoder de ce coup, si c'est l'option qu'il choisit.
Alors en fait, quelles sont les ambitions de Joseph Kabila? Il revient donc sur la scène médiatique, peut-être sur la scène politique, sachant donc que le pouvoir congolais l'accuse de soutenir le M23.
C'est toujours difficile de décrypter les ambitions d'un personnage qui est resté silencieux pendant 6 ans comme lui. Après, je crois qu'il faut inscrire l'annonce de ce retour dans une séquence plus large dans laquelle Joseph Kabila essaie de se repositionner comme un acteur à même de peser ou de profiter de la crise actuelle à la fois politique et sécuritaire. En coulisses, ça fait des mois maintenant que ses proches essaient de le présenter comme une alternative, essaient d'insister sur son statut d'ancien chef d'État, de jouer la carte de l'expérience face à ce genre de crise. Kabila lui-même a restructuré son parti, rencontré des opposants, livré des interviews très critiques du pouvoir qu'il charge de la responsabilité de la crise actuelle, tout en entretenant des liens assez flous avec certains responsables de la rébellion. Donc il y a en filigrane la volonté de se présenter comme une alternative à un pouvoir que lui juge responsable de la situation actuelle, ou tout du moins d'être une partie de la solution, ce qui reste un pari assez délicat.
Dans ces conditions, Romain Gras, on imagine que Félix Tshisekedi ne voit pas le retour au pays de son prédécesseur d'un très bon œil.
Le pouvoir n'a pas officiellement communiqué sur l'annonce du retour de Joseph Kabila, mais ça fait des mois qu'il est extrêmement suspicieux à l'égard de l'ancien président, dont il essaye un peu de suivre les mouvements. Joseph Kabila a beaucoup voyagé dans la sous-région. Il y a eu une rupture assez brutale entre les deux hommes au sortir de la présidentielle, à l'issue de laquelle ils avaient noué un accord politique qui a par la suite été rompu de l'analyse de Joseph Kabila. Donc par la suite, beaucoup de proches de Joseph Kabila sont partis en exil, sa famille a en grande partie quitté le pays, et Félix Tshisekedi l'accuse depuis des mois de vouloir préparer une insurrection en RDC et d'être le cerveau derrière la création de l'Alliance Fleuve Congo, hein, la vitrine politique en quelque sorte du M23 que dirige Corneille Nangaa. Le pouvoir s'inquiète des relations entre les deux hommes, entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, qui ont été proches à une époque, et ils s'inquiètent aussi de l'influence que Joseph Kabila aurait sur l'Alliance Fleuve Congo et l'évolution, les ambitions de ce mouvement.
Merci Romain Gras. Cet article sur le retour annoncé de Joseph Kabila en RDC est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et merci à vous Catherine Potet.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
Et nous sommes le samedi 12 avril à la une de l'actualité internationale. Israël annonce étendre son offensive dans la plus grande partie de la bande de Gaza. Promesse du ministre de la Défense Israël Katz alors que l'armée a achevé aujourd'hui son encerclement de la ville de Rafah dans le sud de l'enclave palestinienne. Le Hamas assure espérer des progrès en vue d'une trêve alors que des discussions se tiennent aujourd'hui au Caire avec les médiateurs égyptiens. Des pourparlers également entre Iran et États-Unis. Ce samedi, il se déroule à Oman entre le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi et l'émissaire américain du président Donald Trump, Steve Witkoff. Discussion présentée comme indirecte par Téhéran, comme directe par les États-Unis. La question du nucléaire iranien doit bien sûr être évoquée. Il faut sauver le soldat British Steel. Les députés britanniques réunis en urgence en ce moment pour tenter de sauvegarder les deux derniers hauts fourneaux du pays menacés de fermeture par leurs propriétaires chinois. 2700 emplois pourraient disparaître en cas d'accord. Des parlementaires, le gouvernement prévoit de prendre le contrôle de l'usine. Et puis il était l'un des criminels les plus célèbres d'Italie. Graziana Messina est décédé ce samedi à l'âge de 83 ans à la prison de Milan. Condamné pour trafic de drogue, il s'était rendu célèbre en réussissant 10 évasions de prison. Allez, midi 50 en temps universel, 14h50 ici à Paris, l'heure de retrouver la semaine de Jean-Baptiste Placa, fondateur de l'Autre Afrique, qui nous livre sa vision de l'actualité du continent des 7 derniers jours. Jean-Baptiste qui rend ce samedi hommage à un diplomate de carrière décédé à l'âge de 82 ans. Et si Amara avait été le dernier ministre des Affaires étrangères de Félix Houphouët-Boigny? Il se pose surtout cette question: en quoi les hommages qui lui sont rendus se distinguent-ils des convenances habituelles souvent teintées d'hypocrisie qui saluent chaque disparition de personnalité public?
Nul ne peut exclure que certains de ces hommages puissent manquer de sincérité, mais Issi Amara était un diplomate d'envergure, d'une redoutable efficacité et surtout d'une discrétion et d'une humilité rares à un tel niveau. Sous toutes les latitudes, il a su brillamment représenter son pays. Il a même signé quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du continent, notamment en pilotant de 2001 à 2003 la mutation de l'organisation de l'unité africaine en Union africaine. Les colonnes d'apothéose dressées en sa mémoire sont donc méritées, particulièrement dans le contexte actuel d'incertitude généralisée avec tous ces dirigeants qui piaffent et vocifèrent, persuadés de faire la preuve de leur force ou de leur puissance en détraquant l'économie mondiale ou en détruisant le fragile équilibre du monde. Où sont donc dans la diplomatie africaine les Issi Amara d'aujourd'hui, si tant est qu'il y ait encore une diplomatie africaine? Aucun pays ne peut exister aux yeux du reste du monde sans une diplomatie solide avec un vivier de diplomates de qualité comme en avait constitué Félix Houphouët-Boigny, même si en plus de 30 ans de pouvoir, il n'a eu que 3 ministres des Affaires étrangères.
Jean-Baptiste, ce qui pose la question de à quoi tenait donc cette durée de vie relativement longue de ces ministres ?
La diplomatie est un métier complexe dans lequel la stabilité peut être gage d'efficacité. Durant les 5 premières années d'indépendance, le président assumait lui-même cette fonction, ensuite confiée à Arsène Huchère-Assouan, brillant avocat qui avait été son attaché de cabinet alors qu'il était ministre d'État dans le gouvernement français. En 1977, Huchère-Assouan est remplacé par l'ambassadeur à Londres, Siméon Aké, à qui succédera Issi Amara en 1990. À la mort du vieux en décembre 1993, il sera reconduit par Henri Konan Bédié jusqu'au coup d'État de 1999. En Côte d'Ivoire, la diplomatie était un corps d'élite. Même lorsqu'ils ont par la suite assumé d'importantes autres fonctions, les grands diplomates ont toujours revendiqué leur rang d'ambassadeur comme un titre de noblesse. Dans l'administration de nombreux pays d'Afrique, le ministère des Affaires étrangères était de ces départements qui passaient autrefois pour des sanctuaires de compétences. Au même titre que l'économie, les finances, le plan, il fallait pour y officier justifier de compétences qui ne pouvaient s'improviser et certains postes importants n'étaient occupés que par des fonctionnaires qui avaient brillamment gravi tous les échelons. Avec le népotisme, le régionalisme, le favoritisme politique et l'incompétence qui va avec, ces administrations, presque partout, ont été peu à peu dépréciées.
Un constat très dur, Jean-Baptiste, mais les cadres valables ont-ils pour autant disparu de partout?
Non, heureusement, mais à force d'arbitraire et de complaisance, bien des carrières ont pu être contrariées, poussant plus d'un au découragement, à la démotivation. L'excellence a fini par sombrer, les pistonnés et autres imposteurs éclipsant les meilleurs. Voilà comment un métier exigeant, sérieux et correction en permanence en est venu à être livré aux champions de la facilité et de la gloire à bon marché, se délectant de l'illusion de grands voyages, de réception de paillettes et autres projecteurs éclatants. Et les diplomates dans bien des pays sont devenus des monstres de maladresse, bafouant au quotidien les convenances diplomatiques les plus élémentaires. Par la distinction et l'exemplarité qu'ils affichaient en toutes circonstances dans l'exercice de leur métier, les diplomates de la trempe d'Essi Amara suscitaient bien des vocations. On regrettera que la plupart n'aient pas laissé des écrits sur les grands moments de l'Afrique indépendante dont ils ont été témoins ou acteurs. Pour reprendre l'image d'Amadou Ampateba comparant à une bibliothèque qui brûle, tout vieillard qui meurt, il faut juste rappeler que les modèles africains de sérieux et de rigueur doivent être gravés avant que la superficialité ne vienne tout submerger.
Et merci à vous Jean-Baptiste Placa, RFI. Il est 12h55 en temps universel, l'heure de dialoguer avec les mots dans Afrique Midi. Et aujourd'hui, Lucille Bouteloup reçoit une invitée pour parler de tout, mais surtout de rien dans un mot, une histoire.
La vraie phrase philosophique, c'est celle de Leibniz qui dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Ça, c'est le principe des principes.
Helléniste, philosophe et directrice de recherche au CNRS, Barbara Cassin a fait des langues et du langage son terrain d'étude et sa passion. C'est aussi la 8e femme à siéger parmi les immortels et à ce titre, elle a donc participé à la rédaction de la dernière édition du Dictionnaire de l'Académie française. Et pour cet épisode, elle a choisi de nous parler d'un mot qui décrit une chose et son contraire.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Il y a un mot que j'adore, c'est le mot « rien ». Je l'adore parce que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que « rien », l'étymologie fiable, certaine, c'est « rem », c'est-à-dire « chose » à l'accusatif.
Ça vient du latin ?
Oui, « res »,« rei », »,« chose ». Et ça a donné « rien ». Donc « rien », ça veut dire quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. Et peut-être celui qui l'a vraiment mis en scène et en lumière, c'est Raymond Devos.
Si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien de rien. Et de rien, car rien c'est pas rien, la preuve, ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher.
Ce qui est amusant aussi dans ce mot, c'est justement ce glissement de sens de comment on est passé de la chose à la négation, qui veut dire pas.
Oui, mais alors, vous voyez, quand vous dites « ah non, il n'y en a pas bah, », vous parlez d'un pas. Quand vous dites « je n'y vois goutte », vous parlez d'une goutte. Tout ça, c'est des choses, c'est génial. Et quand vous passez au latin, il y a une autre manière de dire « rien », c'est « nihil ». Nihil, eh bien ça veut dire rien, la négation, n, ne, non. Et puis hilum, hilum c'est le petit bout noir de la fève. Donc il y a toujours quelque chose qu'on nie. Ça, je trouve ça génial. Il y a au fond deux manières de nier. Une manière de nier grâce à un terme positif et une manière de nier en niant quelque chose de positif. Ne pas, on met un ne devant. Mais avec rien, ben, vous pouvez dire rien c'est rien. Bah, même quand vous le prononcez, vous dites quelque chose. Et je crois que l'impossibilité de maintenir une négation pure, surtout quand vous en parlez, c'est l'essence même de l'intérêt du rien.
Et alors, qu'est-ce que ça serait que le contraire de rien ?
Quelque chose, c'est-à-dire rien.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot « rien » peut être utilisé comme un pronom indéfini avec une valeur positive dans des emplois soutenus pour « quelque chose », « quoi que ce soit » ou bien avec une valeur négative pour « aucune chose », « nulle chose ». C'est aussi un nom qui définit le néant ou une chose de peu d'importance, une bagatelle.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation Générale à la langue française.
Et Barbara Cassin qui a récemment publié le roman graphique La Nuit au Louvre aux éditions Flammarion. Merci à vous Lucie Bouteloup, un mot, une histoire à retrouver sur RFI.fr. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Olivier Roux est à la réalisation, Karine Franck à la rédaction en chef. Restez avec nous dans un instant, le retour de l'actualité internationale sur la Radio du Monde.
religions du monde, Véronique Guémard.
Que signifie la notion de civilisation judéo-chrétienne ? L'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis, dans son dernier essai, dénonce la récupération politique de cette expression qui occulte deux millénaires d'anti-judaïsme, qui exclut l'apport de l'Orient et qui efface l'islam des références culturelles.
Religions du monde, avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.